Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'exode des chrétiens d'Irak s'accélère. Mercredi, les routes traversant la plaine de Ninive étaient pleines de convois de voitures de familles fuyant Mossoul. Tandis qu'en Syrie, la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour. Vous entendrez le patriarche Sacco dès le début de ce magazine. Vous entendrez également le témoignage d'un prêtre des missions étrangères de Paris en poste à Hong Kong, où les habitants sont mobilisés contre l'emprise de Pékin. 17 ans après le retour à la Chine, Hong Kong est déterminé à défendre la démocratie. Un verdict attendu en Argentine à l'issue d'un procès historique suivi de près par le pape François. La justice pourrait reconnaître qu'un évêque, Mgr Angelelli, farouche opposant à la dictature militaire, a été victime d'un assassinat déguisé en accident de la route. Le Saint-Siège suit avec la plus grande attention la situation dramatique dans laquelle se trouvent les populations syriennes et irakiennes. La violence armée s'est une nouvelle fois substituée à la négociation, a regretté mercredi soir le cardinal français Jean-Louis Torrent. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux présidait à Rome une veillée de prière pour la paix au Moyen-Orient. Aujourd'hui, a-t-il constaté, la violence armée dégénère souvent en terrorisme et fragilise le monde qui doute de son avenir. Les chrétiens peuvent contribuer à l'élaboration d'une pédagogie de la paix, en se souvenant qu'il ne peut y avoir de paix sans liberté, sans justice et sans solidarité, et que la guerre est le fruit de trois attitudes : la peur de la différence, le soupçon et la jalousie, la soif de pouvoir. Alors que l'Irak s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos, c'est un véritable cri d'alarme que lance le patriarche de Babylone des Chaldéens, sa béatitude Louis-Raphaël Ier Sacco, dit craindre une guerre civile qui aboutirait à la division du pays. Il s'insurge contre l'immobilisme de la communauté internationale qui constate sans réagir l'avancée des djihadistes de l'État islamique et observe dans une relative indifférence la souffrance des populations irakiennes. Hélène Détombe l'adjoint par téléphone.
Le pays vit aujourd'hui une situation chaotique qui va vers la division. Le Kurdistan est déjà autonome. La zone sunnite, les provinces sunnites ne sont pas contrôlées par le gouvernement central. Et le Sud est un peu calme parce que est presque chiite. Et nous, les chrétiens, on ne sait pas où nous serons. Donc, les gens chrétiens et musulmans ont peur. Tout est fragile. On ne sait pas quand ça va éclater. Il y a un grand danger d'une guerre civile. Peut-être une guerre civile entre sunnites et chiites et autres pour affaiblir tous ces groupes-là et à la fin dire, voilà, il n'y a pas devant vous que la division du pays en trois cantons.
Vous avez le sentiment que le pays est en chemin vers une guerre civile et donc vers une division de l'Irak ?
Oui, oui, ça pas seulement moi. Dans la rue, vous arrêtez quelqu'un et vous lui posez la question où va l'Irak, il va vous dire ça. Un simple homme.
Qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui d'éviter cette guerre civile, d'éviter cette division?
Pousser les Irakiens à intervenir, pas militairement, mais d'une manière civile, et pousser les Irakiens à trouver une solution politique pour sauver soit l'unité du pays, soit aussi la vie des gens. Ou s'il y a un plan mondial pour la division du pays, que ce soit fait avec un accord, avec le dialogue et non pas avec la guerre. Je crois que les Américains ont le devoir moral d'aider les chefs de coalition, disons, politique irakienne de se mettre d'accord.
Vous avez le sentiment que l'Irak est aujourd'hui oublié par la communauté internationale?
Tout à fait. La communauté internationale est occupée par en cherchant leurs intérêts. Aussi, les gens donne plus d'importance à un match de football que des guerres comme en Irak ou ailleurs.
Est-ce qu'il y a malgré tout certains signes qui laisseraient apparaître une solution politique qui pourrait permettre le rétablissement de la sécurité?
C'est très fragile parce qu'il y a des murs comme ça entre les groupes, entre sunnites et chiites et les autres. Chacun a fait tout un mur. Donc, comment faire enlever tous ces murs-là, non? Il faut une puissance très grande.
Ce mercredi soir, une veillée de prière pour l'Irak et la Syrie a été organisée à Rome. C'est un signe important, ce soutien de chrétiens européens en faveur des populations irakiennes.
Oui, ça c'est très important. Nous, nous sentons que nous sommes dans la barque. Je crois que ce n'est pas Jésus qui dort, ce sont les chrétiens qui dorment. Et ils sont un peu indifférents. Moi, je me sens choqué et scandalisé par l'égoïsme et l'individualisme occidental. J'appelle tout le monde, j'appelle surtout les églises, les conférences épiscopales, les chrétiens, les communautés religieuses à faire quelque chose, à élever leur voix et dire ça et condamner tout ça. Et pourquoi avoir peur de dire la vérité? Il faut nous réconforter et nous encourager pour rester, persévérer et témoigner les valeurs de l'Évangile.
C'était le patriarche chaldéen de Bagdad, Monseigneur Louis Sacco. Et selon l'agence Vatican Fides, en début de semaine, des groupes armés ont fait des incursions dans l'église syro-orthodoxe Saint-Éphrem et dans l'église syro-catholique Saint-Paul de Mossoul. Ils ont emporté la croix, se trouvant près de l'autel. Le cardinal Jean-Louis Torrent a rencontré une délégation hindoue, l'occasion pour lui de réaffirmer l'importance du dialogue interreligieux pour vaincre la pauvreté et l'injustice. Une rencontre qui intervient alors que l'extrémisme hindou connaît une recrudescence depuis l'élection du nouveau Premier ministre indien Narendra Modi, leader du parti hindouiste nationaliste BJP. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a profité de leur présence pour réaffirmer que la vérité, l'amour et la compassion étaient des valeurs fondamentales pour toutes les religions et qu'elles pouvaient faire de chacun de nous un artisan de paix. Olivier Bonnel.
En Inde, mais aussi au Népal, les menaces et les pressions se multiplient envers les chrétiens. C'est dire l'importance de la visite à Rome d'une délégation hindoue emmenée par un prédicateur très connu. D'autant que la délégation est venue participer à une rencontre sur la manière de parvenir à la paix dans le monde grâce aux enseignements de Jésus et de comprendre l'influence positive de l'Église catholique. Le cardinal Torrent leur a parlé de l'importance de la spiritualité intérieure des croyants qui doit les conduire naturellement au respect de l'autre. Il faut, dit-il, construire des ponts pour mettre les personnes en relation et créer des rapports fondés sur la compréhension de l'héritage spirituel de chacun. En développant la culture de la rencontre et de la solidarité, les croyants de différentes religions peuvent contribuer ensemble à l'instauration d'une société juste et d'une paix durable et à l'élimination des inégalités scandaleuses, de la pauvreté et de l'injustice. Mais sur le terrain, la réalité est souvent difficile. Ces jours derniers, une ONG protestante, reprise par l'Agence Église d'Asie, a dénoncé l'augmentation au Népal de l'intolérance envers les minorités de la part des extrémistes hindous. Ils sont désormais à l'affût du moindre prétexte pour s'attaquer aux chrétiens. C'est dans ce contexte troublé que le nouveau vicaire apostolique du Népal a reçu dimanche son ordination épiscopale. Il s'est efforcé de rassurer les fidèles, se disant persuadé que les différents groupes religieux pourront arriver à s'entendre pour construire ensemble la paix et la solidarité.
À Hong Kong, les manifestations pro-démocratie à l'occasion de l'anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine ne sont pas du goût des autorités. La journée de mardi a été particulièrement mouvementée, avec plus de 500 000 personnes dans la rue demandant l'instauration d'une véritable démocratie dans l'ancienne colonie britannique. Plus de 500 personnes ont été arrêtées mercredi matin alors qu'elles refusaient de quitter la place qu'elles occupaient depuis la fin du défilé. L'enjeu de ces mobilisations, c'est la possibilité pour Hong Kong de choisir son exécutif sans ingérence de Pékin, ce qui est loin d'être le cas. Explication des enjeux avec le père Bruno Lepeu des Missions étrangères de Paris, en poste à Hong Kong.
En fait, il faudrait revenir beaucoup plus en arrière ou se souvenir de ce qui avait créé le système spécial de Hong Kong. C'est quand les Anglais et les Chinois se sont mis d'accord dans la déclaration commune en 1984, il était prévu que Hong Kong vive avec un degré d'autonomie réel et qu'on vive sous le fameux principe du « un pays, deux systèmes ». Et de là était née la fameuse loi de base qui gère le territoire de Hong Kong depuis 1997, donc depuis la rétrocession. Et cette loi de base prévoyait une mise en place progressive du suffrage universel. On l'attendait pour 2012, au moment des élections à la fois législatives et du chef de l'exécutif. Et puis, ça nous a été promis finalement pour 2017. Donc, les gens prenaient le mal en patience et espéraient qu'une bonne formule sortirait du chapeau, en espérant que ça soit de la vraie démocratie. Et puis, progressivement, les échéances arrivant, on s'est aperçu que, en fait, le gouvernement de Pékin n'était pas prêt à donner un réel suffrage universel. Et donc, la situation a été que, finalement, il y avait possibilité d'élire le chef de l'exécutif au suffrage universel, mais après sélection des candidats par Pékin.
Alors, comment vous interprétez ces tensions entre Pékin et Hong Kong? Est-ce que c'est une reprise en main de la part des autorités chinoises sur l'ancienne colonie britannique? Un retour en force de Jinping? Depuis un peu plus d'un an, c'est lui qui est au pouvoir. Il est accusé de dérive autoritaire par beaucoup d'acteurs. Comment vous l'interprétez?
Moi, il me semble que c'est en fait plutôt, on est sur deux longueurs d'onde. Les gens de Hong Kong voulaient croire que Pékin leur autorisait une vraie autonomie. Et à Pékin, c'était de dire, bon, ben, on est patient avec les gens de Hong Kong, mais de toute façon, c'est une autonomie sous contrôle, quoi. Et en fait, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau. C'est que dès le départ, Pékin ne pouvait pas envisager qu'un territoire de la Chine soit avec une autonomie aussi large, avec un vrai suffrage universel. Parce que ça veut dire que le reste de la Chine pourrait dire ben oui, mais nous aussi, on veut ça.
Parlez-nous un peu, Père Lepeu, du rôle de l'Église dans cette aspiration à la démocratisation. L'Église qui joue un rôle important.
Hein. L'Église en tant que telle ne joue pas un rôle au sens où l'Église n'a pas pris une position officielle, n'a pas lancé un mouvement. Mais les personnes de l'Église, aussi bien du côté protestant que catholique, sont depuis longtemps engagées dans ce mouvement pour la démocratie. En particulier, le cardinal Zen est aussi lui-même très impliqué. Et avant le référendum citoyen, il avait organisé une marche de 84 heures, donc répartie sur 7 jours, où il allait un peu dans les différents coins de Hong Kong pour inviter les gens à voter pour ce référendum. On ne sait pas s'il y a eu une relation directe avec le nombre de votes, mais de fait, le cardinal Zen s'est très impliqué. À chaque fois qu'il y a ce genre de manifestation, il s'est précédé avant, dans un petit pagodon à côté du stade, s'est précédé par une prière œcuménique. Donc il y a de fait un engagement chrétien autour de ce mouvement-là. La commission justice et paix du diocèse est aussi très impliquée et publie des petites brochures pour aider les gens à comprendre ce qui se passe, sans dire pour autant aux gens ce qu'il faut faire. Quant au cardinal Trang, il n'est pas opposé, mais il n'a pas pris une position publique sur ces questions-là.
Le père Bruno Lepeu, des missions étrangères de Paris, interrogé par Olivier Bonnel. C'est ce vendredi que devrait tomber en Argentine le verdict très attendu concernant la mort d'un évêque à l'époque de la dictature militaire. Officiellement, Mgr Enrique Angelelli, qui s'opposait ouvertement à la dictature, est mort dans un accident de la route en 1976. Il venait de célébrer une messe en mémoire de deux prêtres, dont un Français, Gabriel Longueville, qui faisait partie du mouvement des prêtres pour le tiers-monde. Leur corps, criblé de balles, avait été retrouvé les yeux bandés dans un terrain vague de la ville. L'évêque venait de constituer un dossier sur l'assassinat des deux prêtres. Il avait avec lui une sacoche disparue ce jour-là. Dans une lettre, quelques jours avant sa mort, il affirmait que les prêtres et les religieux de son diocèse étaient entravés dans l'exercice de leur mission, fréquemment humiliés, convoqués et pillés par la police sur ordre de l'armée. En 1986 déjà, la justice argentine avait conclu que la mort de Mgr Angelelli n'était pas accidentelle. Mais deux ans plus tard, les assassins présumés bénéficièrent d'un non-lieu. Aujourd'hui, deux ex-officiers, dont un général, siègent sur le banc des accusés. L'épiscopat local a reconnu que le pape François suivait de très près le déroulement du procès et que des éléments cruciaux avaient été fournis aux enquêteurs. En 2006, Mgr Bergoglio avait d'ailleurs organisé des commémorations pour le 30e anniversaire de la mort de Mgr Angelelli. Il avait rendu hommage à cette victime de la désinformation, de la diffamation et de la calomnie. Selon les organisations des droits de l'homme, un évêque, au moins 10 prêtres, 2 séminaristes et 5 agents pastoraux ont été tués pendant la dictature. 10 autres prêtres, 7 séminaristes et 45 agents pastoraux sont considérés comme disparus. Les fidèles ont été invités à se réunir en prière dans l'attente du verdict. En Centrafrique, des groupes armés font aujourd'hui la loi dans certaines régions. C'est ce que dénoncent les évêques du pays. Ils se sont réunis au siège de la conférence épiscopale à Bangui, la capitale, à l'occasion de leur deuxième session annuelle. L'occasion de transmettre un message aux chrétiens et aux hommes et femmes de bonne volonté. Les évêques centrafricains appellent à œuvrer en faveur de la cohésion sociale et adressent des paroles d'espérance à la population qui souffre. Nous avons joint sur place Mgr Nestor Désiré Nongo Aziagbia, évêque de Bossangoa. Il évoque une partition de fait dans le pays et dénonce les violences.
Malheureusement, la situation sécuritaire en République centrafricaine aujourd'hui est chaotique. Nous avons des groupes armés, Antibalaka et Seleka ou ex-Seleka, qui sévissent. On peut prendre le cas du diocèse de Bambari, où depuis quelques semaines, ce sont des groupes armés qui font la loi dans la localité. Aussi bien les Antibalaka comme les ex-Seleka, au détriment de la population paisible de cette ville qui n'aspire qu'à la paix, qui n'aspire qu'à la cohésion.
La solution passe forcément par un désarmement rapide et la reconstruction de l'État centrafricain.
Le désarmement rapide, la reconstruction de l'État centrafricain, ce sont des préalables, mais il ne faudrait pas aussi oublier la dimension économique, la crise que nous sommes en train de vivre, au-delà des interprétations religieuses qu'on veut en faire, est fondamentalement une crise politique et économique.
Dans votre message, vous évoquez également la situation à Bangui. Quel est aujourd'hui le climat qui règne dans la capitale ?
C'est plutôt un climat d'apaisement, un climat de sérénité. Et si nous continuons dans cette perspective, on pourrait éventuellement aboutir à ce à quoi tout le monde aspire, le vivre ensemble entre les différentes communautés.
Quel est le cœur de ce message et l'appel que vous souhaitez, évêque centrafricain, lancer ?
Les évêques centrafricains réunis en conférence épiscopale sont conscients de nombreux défis, obstacles, difficultés qui nous empêchent d'aller à la cohésion sociale. Nous continuons à déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à cette cohésion sociale qui est indispensable.
L'évêque de Bossangoa en Centrafrique, interrogé par Hélène Destombes. En France, l'hebdomadaire La Vie fait état d'un nouveau rebondissement dans l'affaire douloureuse des contemplatifs de Saint-Jean, en crise et fortement divisée depuis quelques années. Fondée en 1982 par le père Marie-Dominique Philippe, les sœurs contemplatives de Saint-Jean se déchirent depuis le changement de gouvernement décidé il y a quelques années par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, en accord avec le Vatican. Les explications de Cyprien Viette.
Les responsables étaient soupçonnés de manipuler les religieuses et d'exercer une emprise très forte sur les plus jeunes. Placées sous l'autorité d'un délégué pontifical chargé de maintenir leur unité, les sœurs se partagent désormais en deux groupes qui n'entretiennent plus aucun contact. Mardi, Mgr Brincard, l'actuel délégué pontifical, a fait connaître les décisions du Saint-Siège. Un commissaire pontifical va être nommé pour accompagner l'ensemble de la famille et ses prieurs généraux. Par ailleurs, la congrégation est invitée à tenir dès que possible son chapitre général pour choisir son gouvernement propre. Les ex-religieuses qui ont canoniquement quitté la congrégation et les laïcs qui voudront s'unir pourront librement constituer une association publique de fidèles en vue de devenir un institut religieux. Dans l'éventualité, cependant, où une association ferait d'une quelconque manière référence au père Marie-Dominique Philippe, l'évêque diocésain devra demander l'avis de la congrégation pour les instituts de vie consacrés et s'en tenir aux instructions que le dicastère du Vatican lui donnera. Le père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la famille Saint-Jean, a fait l'objet d'un scandale posthume et les contenus de son charisme sont actuellement objet de discernement. Enfin, les sœurs qui avaient été éloignées des charges de gouvernement sont définitivement exclues de la vie religieuse. Des 380 sœurs de Saint-Jean présentes en 2009, 70 seraient parties entre 2009 et 2013.
Et puis sachez que le pape François a nommé un nouvel évêque à Verdun, en France. Il s'agit de Mgr Jean-Paul Guching, qui était jusqu'ici vicaire général du diocèse d'Amiens. Âgé de 59 ans, le nouvel évêque succède à Mgr François Maupu, qui atteindra fin août la limite d'âge de 75 ans. Mgr Guching a fait des études de comptabilité avant d'étudier au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux et de Reims. Il a également étudié à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique de l'Institut catholique de Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.